à Washington.
Bonsoir à tous, Abdoulrahman Dia en direct de Washington pour cette édition de 17h30 en universel. Nous sommes jeudi 12 avril 2018 au sommaire. En Sierra Leone, Samora Camara, qui a perdu le second tour de la présidentielle, va finalement saisir la Cour suprême. Nouveau rendez-vous manqué pour l'opposition togolaise qui n'a pas pu manifester aujourd'hui encore. L'Algérie, toujours en deuil au lendemain du crash d'avion qui a fait 257 morts hier. Les causes restent inconnues. Le président français Emmanuel Macron affirme avoir les preuves que le régime syrien est à l'origine de l'attaque chimique à Douma. En partie magazine, Amnesty International se félicite du recul de la peine de mort en Afrique.
De manière générale, il y a une baisse au niveau du nombre de pays des personnes condamnées à mort.
Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. Bienvenue à tous en Sierra Leone. Après avoir félicité son adversaire, Samora Camara, candidat malheureux à l'élection présidentielle, a saisi la Cour suprême pour contester la victoire de Julius Maada Bio. On fait le point avec Morgane Guiriec.
La répression d'hier a eu raison de la détermination des manifestants qui ne se sont pas présentés ce jeudi matin aux différents points de départ de la marche. Le gouvernement a dit maintenir l'interdiction des manifestations. Le ministre de l'administration territoriale, Payadoa Boupessi,
a réagi avec colère aux images d'enfants mourants après une attaque présumée dans une banlieue de Damas. Il a appelé le président syrien Bachar al-Assad un animal qui tue au gaz et s'est engagé dans une guerre de mots avec
voilà, les donc je disais qu'en Sierra Leone, après avoir félicité son adversaire, Samora Camara, candidat malheureux à l'élection présidentielle, a saisi la Cour suprême. Morgane Guiriec.
Dans son recours consulté par l'AFP, M. Camara reproche à la commission électorale d'avoir proclamé le 4 avril la victoire de M. Bio sans tenir compte d'irrégularités observées, selon eux, lors du second tour, le 31 mars. Il demande donc à la Cour suprême d'ordonner l'exclusion du décompte des bureaux de vote où s'est produit un bourrage d'urnes et d'invalider l'annonce de la victoire de Julius Maada Bio qui a prêté serment 2 heures plus tard. La date de la décision de la Cour suprême n'était pas connue dans l'immédiat. Le soir de la proclamation des résultats, M. Camara avait exprimé l'intention de les contester en justice. Mais il avait ensuite félicité M. Bio le 7 avril lors d'une visite à son domicile avec une délégation de son parti. Les observateurs présents lors des élections ont généralement salué le bon déroulement du scrutin. La date de la décision de la Cour suprême n'était pas connue dans l'immédiat.
Au Togo, pour la deuxième journée consécutive, l'opposition n'a pas pu manifester à Lomé comme elle le voulait. Le gouvernement a interdit les manifestations dans la capitale et dans le pays. L'opposition exige toujours le retour à la constitution de 92. Le point à Lomé avec notre correspondante Kay Lawson.
La répression d'hier a eu raison de la détermination des manifestants qui ne se sont pas présentés ce jeudi matin aux différents points de départ de la marche. Le gouvernement a dit maintenir l'interdiction des manifestations. Le ministre de l'administration territoriale, Payadoa Boupessi, explique que cette interdiction est motivée par la volonté de Lomé de ne pas violer les engagements pris par les parties prenantes au dialogue. Comme bilan de la journée d'hier, la coalition des 14 partis de l'opposition déplore 25 manifestants blessés et une tentative d'assassinat sur la personne de Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l'opposition. Le samedi prochain, 3 entités projettent manifester. Il s'agit de la centrale syndicale Synergie des travailleurs togolais, du mouvement de la société civile Front Citoyen Togo Debout et de la coalition des 14 partis de l'opposition. Kay Lawson, Lomé pour VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, le Sénat fait sa rentrée ce jeudi à Yamoussoukro. C'était en présence du président Alassane Ouattara et des présidents des différentes institutions. Composé de 99 membres, dont 66 élus au suffrage indirect et les 33 autres nommés par le président de la République, le Sénat est chargé d'assurer la représentativité des collectivités territoriales et des Ivoiriens de la diaspora. Nous y reviendrons dans la partie magazine. Au Cameroun, un ancien magistrat enlevé dimanche dans une des deux régions anglophones du pays a été libéré. L'ex-président de la Cour d'appel du Sud-Ouest, Martin Beng, a effectivement été libéré, a affirmé à l'AFP un responsable régional de l'armée, confirmant une information obtenue auprès d'une ONG. Le gouvernement n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. M. Beng avait été enlevé dimanche dans le Sud-Ouest par des séparatistes présumés, selon Maître Agbor Nonko, défenseur des droits de l'homme et proche du magistrat. Pression sur le gouvernement soudanais pour qu'il retire ses troupes du Yémen où elles interviennent dans le cadre de la coalition sous commandement saoudien. Les appels au retrait des troupes soudanaises se multiplient à Khartoum depuis une embuscade meurtrière la semaine dernière dans le nord de ce pays en guerre. Des dizaines de soldats soudanais ont été tués dans la province de Hadjaj lors d'une embuscade tendue par les rebelles houthis. Khartoum n'a pas confirmé ses morts ni la coalition sous commandement saoudien. L'Algérie observe un deuil national de 3 jours après le crash d'un avion militaire qui a fait 257 morts. L'appareil s'est écrasé mercredi, quelques minutes après son décollage à l'aéroport de Boufarik. Les causes restent encore inconnues. Reste Girondin.
Un deuil national de 3 jours a été décrété dès mercredi en mémoire des victimes qui sont majoritairement des soldats et des membres de leur famille. Le drapeau national est en berne sur les bâtiments ou places publiques de la capitale algérienne. De nombreux événements culturels ou festifs prévus ces 3 prochains jours ont été supprimés. Les autorités ont annoncé l'ouverture d'une enquête pour connaître les causes de la pire catastrophe aérienne de l'histoire du pays. Plusieurs journaux algériens rappellent que le pays est frappé par une série de crashs aériens, soulignant que l'âge des appareils de l'armée et leur entretien ont déjà été mis en avant. Le dernier accident remonte à juin dernier et avait fait 1 mort et plusieurs blessés. Vendredi, la prière de l'absent sera récitée à la mémoire des victimes dans toutes les mosquées d'Algérie.
En Égypte, Hicham Guenena, l'ex-président de l'autorité de contrôle des comptes publics, sera jugé le 16 avril devant un tribunal militaire. Ceci après avoir suggéré l'existence de documents secrets compromettants pour les dirigeants de l'État. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi son avocat. Selon son avocat, M. Guenena sera jugé pour propagation d'informations contre les forces armées. Il avait été arrêté en février à la suite d'une interview dans le HuffPost Arabie, la version arabe du site américain.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, selon la Maison-Blanche, les États-Unis et leurs alliés sont toujours en train d'examiner comment répondre aux atrocités en Syrie, de nombreuses options étant encore en considération. Mercredi, le président américain Donald Trump a tweeté que les missiles allaient arriver en réponse à la menace de la Russie d'abattre tous les missiles américains en Syrie. Les précisions avec Arjuma Compaoré.
Le président Trump a réagi avec colère aux images d'enfants mourants après une attaque présumée dans une banlieue de Damas. Il a appelé le président syrien Bachar al-Assad un animal qui tue au gaz et s'est engagé dans une guerre de mots avec la Russie, allié du président syrien. Trump est resté cependant évasif jeudi sur le moment où les États-Unis pourraient lancer des frappes contre la Syrie en représailles de cette attaque chimique présumée, affirmant qu'elle pourrait intervenir très tôt ou pas si tôt que cela. Donald Trump semble donc retropédalé par rapport à sa série de tweets de la veille. Les législateurs russes ont averti les États-Unis que Moscou considérerait une frappe aérienne sur la Syrie comme un crime de guerre et qu'elle pourrait déclencher un conflit militaire direct entre les États-Unis et la Russie. En Grande-Bretagne, une réunion du cabinet d'urgence était prévue jeudi par la première ministre britannique Theresa May pour discuter du rôle à jouer dans toute réponse à la situation en Syrie. Jeudi, le président français Emmanuel Macron a déclaré que la France s'efforcerait de préserver la stabilité dans la région, mais ne tolérerait pas les régimes qui pensent que tout est permis.
L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques a confirmé la thèse du gouvernement britannique sur l'identité de l'agent inervant utilisé en Angleterre pour empoisonner l'ex-espion russe Sergei Skripal et sa fille. Londres a identifié la substance comme un agent inervant de la famille Navichtok de conception soviétique, accusant Moscou d'être responsable de l'attaque. Berlin va rebaptiser plusieurs rues rappelant la colonisation allemande en Afrique et honorer à la place des militants africains de l'indépendance. Le texte préconise notamment de débaptiser les rues portant les noms de plusieurs personnalités liées à l'occupation brutale de la Namibie de 1884 à 1918, où les Allemands ont tué entre 1904 et 1908 plusieurs dizaines de milliers de membres des tribus Herero et Nama, un massacre que les historiens considèrent comme le premier génocide du XXe siècle. La Cour suprême espagnole a maintenu en prison Jordi Sanchez, candidat indépendantiste à la présidence de la Catalogne, élu député des élections régionales du 21 décembre. M. Sanchez a, dans l'intervalle, saisi le Comité des droits de l'homme des Nations Unies en se plaignant d'une violation de ses droits politiques. La Chine a annoncé que des exercices militaires seraient menés la semaine prochaine, non loin de Taïwan. Ces manœuvres pourraient accentuer les tensions entre Pékin et Taipei. La Chine continentale et Taïwan sont dirigés par des régimes rivaux depuis la fin de la guerre civile en 1949. L'île se gère de façon autonome, mais n'a jamais déclaré son indépendance. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et c'est Eric Manilakiza qui nous présente la Minute Éco.
Le pays s'inquiète de la dette des pays aidés par la Chine. Pékin multiplie les projets d'infrastructures à l'étranger. En 2013, le président chinois Xi Jinping a lancé un plan pour déployer routes, ports, voies ferrées et parcs industriels à travers l'Asie, aux portes de l'Europe et jusqu'en Afrique. Le FMI met en garde contre les risques de dérapage financier et le piège de l'endettement pour les pays concernés. Reprise des liaisons aériennes directes entre la Russie et l'Égypte. Un vol Moscou-Le Caire a marqué hier cet événement. L'itinéraire avait été suspendu à la suite de l'attentat contre un charter russe au-dessus du Sinaï fin 2015. Le nombre de touristes étrangers en Égypte était passé de plus de 14 millions en 2010 à moins de 6 millions en 2016, avant de remonter à plus de 8 millions en 2017. Les revenus ont plongé jusqu'à près de 4 milliards en 2016, alors qu'ils avaient atteint plus de 11 milliards de dollars en 2010. D'après l'Organisation mondiale du commerce, la montée du protectionnisme risque de compromettre la forte croissance du commerce mondial attendue en 2018. Cette prévision de croissance est estimée à plus de 4% cette année et 4% en 2019. Europos sur les estimations du produit intérieur brut mondial, récemment fortement révisé à la hausse. Toutefois, cette fourchette de prévision n'inclut pas la possibilité d'une escalade dramatique des restrictions commerciales. Certains signes indiquent que le protectionnisme pourrait affecter la confiance des entreprises et les décisions d'investissement.
On passe tout de suite à la page des sports avec vous, Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir, Abdourahmane.
La Tunisie tient son meilleur classement FIFA.
Et oui, Abdourahmane, avec les nombreux matchs amicaux du mois de mars, des changements importants sont à noter. Côté africain, la Tunisie a accentué son statut de leader et profité de ses victoires face à l'Iran et au Costa Rica pour gagner 9 rangs au niveau mondial, 14e, le meilleur classement de son histoire. Le reste du podium africain est inchangé avec le Sénégal et la RD Congo. En dehors de la Tunisie et du Sénégal, pour ce qui est des autres mondialistes africains, l'Égypte est descendue de 3 matchs, tandis que le Nigeria a gagné 5 places et enfin statu quo pour le Maroc.
En Europa League ce soir, Arsenal et l'Atlético Madrid sont bien partis pour accéder aux demi-finales.
Les deux favoris se sont imposés sans trop trembler au quart aller et abordent donc la manche retour ce soir avec confiance. Les hommes d'Arsène Wenger ont, certains, encaissé un but à domicile, mais ils ont aussi une avance de 3 buts face à un CSKA Moscou, quand même limité après leur victoire 4-1 à l'aller. Les Espagnols de l'Atlético Madrid ont eux aussi pris une bonne option pour les demi en s'imposant à domicile 2-0 face au Sporting Portugal.
Les deux autres quarts de finale restent plus indécis.
Oui, Abdourahman, le RB Leipzig a pris une option sur la qualification en battant Marseille à l'aller 1-0, mais les Olympiens espèrent renverser le club allemand avec l'aide de leur bouillant vélodrome. Et la Lazio Rome est favorite face aux Autrichiens de Salzbourg, fort de son succès 4-2 à l'aller, mais les Italiens doivent se méfier des deux buts encaissés chez eux.
Et on termine par la NBA. Minnesota a pris le dernier ticket pour les playoffs.
La saison régulière NBA justement a livré son verdict et Minnesota a décroché le dernier ticket la nuit dernière. Les playoffs débutent dès samedi à l'Est. Les Sixers affronteront Miami Heat, tandis que Milwaukee sera opposé aux Celtics de Boston. À suivre aussi, toujours à l'Est, les oppositions Toronto Raptors, Washington Wizards et Cleveland Indiana Pacers. À l'Ouest, ça commence avec du loup, la revanche entre les Warriors et les Spurs, deux franchises qui ne sont visiblement pas au point pour attaquer les phases finales. Toujours à l'Ouest, Minnesota sera opposé aux Rockets, Portland fera face à New Orleans et Oklahoma City joue le Utah Jazz.
Merci beaucoup, Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahman Dia toujours en votre compagnie. On passe au dossier du jour. La Guinée est devenue le 20e État de l'Afrique subsaharienne ayant aboli la peine de mort pour tous les crimes et le Kenya a supprimé le recours obligatoire à ce châtiment en cas de meurtre, indique le rapport publié ce jour par Amnesty International. Seulement 20 pays sur l'ensemble du continent ont aboli la peine de mort, mais l'organisation fait noter que dans ce sens, des avancées positives ont été notées. On écoute les explications de la chargée de campagne sur l'Afrique de l'Ouest à Amnesty International, Kine Fatim Diop, au micro d'Irene Herman Ungbo.
Il est vrai que dans la région, hein, en général, on a encore des exécutions. Il y a deux pays cette année, le Soudan du Sud et la Somalie, qui ont exécuté 26 personnes. Mais de manière générale, il y a une baisse au niveau du nombre de pays qui exécutent des personnes condamnées à mort, puisqu'en 2016, on avait 5 pays qui pratiquaient l'exécution en Afrique. Cette année, on est à 2 pays.
La Guinée est le 20e pays à abolir la peine de mort en Afrique subsaharienne. Les signaux sont-ils favorables dans d'autres pays qui pourraient bientôt suivre l'exemple de ce pays?
La Guinée est le 20e pays et je pense que les signaux sont favorables dans d'autres pays en Afrique de l'Ouest. La Gambie est en phase de suivre les pas de la Guinée. Une volonté forte du président Barrow, mais également qui est en train de se traduire dans les textes. Également le Niger, nous avons rencontré les autorités qui nous ont parlé de cette volonté d'abolir la peine de mort en Guinée, au Niger, mais aussi au Burkina Faso avec le projet de nouvelle constitution où on a pu constater que pour l'instant, la peine de mort ne fait pas partie des crimes applicables dans le projet de constitution. Nous espérons également que d'autres pays vont suivre dans cette tendance-là.
Le Nigeria est l'un des pays où plusieurs personnes se retrouvent dans les couloirs de la peine de mort. Que faites-vous dans ce sens pour soulager ces personnes?
Alors, le travail qu'on fait au Nigeria, c'est déjà un travail de plaidoyer auprès des autorités. Mais également, on a fait beaucoup de travail de campagne dans le sens de libérer des personnes qui ont été condamnées à mort dans des procès pas du tout équitables.
Alors, globalement, quel est le tableau aujourd'hui sur les exécutions dans la zone subsaharienne quand on sait qu'au moins 15 pays ont prononcé des peines capitales, notamment en Afrique, encore récemment en 2017?
Le tableau est que, c'est vrai, il y a une nette baisse par rapport aux condamnations à mort si on compare à 2015, 2016, où on a vraiment eu des pics. Les pays classiques comme le Nigeria, le Mali sur les questions liées au terrorisme continuent à condamner à mort des personnes. Mais en même temps, il y a des pays qui sont en train de passer le pas et qui ont eu cette volonté de retirer la peine de mort dans leur législation ou dans leur pratique.
C'était Fatou Kine Fatim Diop d'Amnesty International jointe à Dakar.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Gros plan sur la Syrie, théâtre samedi dernier d'une nouvelle attaque chimique présumée, encore une fois imputée au régime de Bachar al-Assad. Les condamnations internationales ont été immédiates, mais vont-elles aboutir à une riposte militaire? Le président américain Donald Trump frappera-t-il Damas comme il l'a fait l'an dernier? Comment réagira la Russie de Vladimir Poutine, l'allié indéfectible du gouvernement syrien? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
En Côte d'Ivoire, la rentrée solennelle du Sénat, la seconde chambre du Parlement, a eu lieu ce jeudi. le Sénat, une première dans l'histoire de la Côte d'Ivoire post-indépendance. Une institution qui ne fait pas cependant l'unanimité. À Abidjan, les précisions de notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara.
Rentrée solennelle du nouveau Sénat ce jeudi à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative du pays, en présence du président Alassane Ouattara et des présidents des différentes institutions. Composée de 99 membres, dont 66 élus au suffrage indirect et les 33 autres nommés par le président de la République, le Sénat est chargé d'assurer au sein du Parlement la représentativité des collectivités territoriales et des Ivoiriens de la diaspora. Mais, au sein de l'opposition, on n'est toujours pas convaincu de l'utilité de cette institution prévu par la constitution adoptée en octobre 2016. Mamadou Koulibaly, du parti Liberté et Démocratie pour la République, leader.
Un Sénat dont on ne voit vraiment pas quoi est-ce qu'il va servir. On renforce un Parlement en transformant le régime présidentiel qu'on a en un régime parlementaire, en donnant plus de moyens aux députés de contrôler l'action gouvernementale, en faisant du Parlement le centre du pouvoir, en obligeant le Parlement à demander des comptes à l'exécutif et en obligeant l'exécutif à rendre des comptes au Parlement.
L'opposition dénonce également la multiplicité des institutions.
Il y a la Chambre des rois et chefs traditionnels, je ne sais pas à quoi ça sert. Il y a le Sénat qui vient d'arriver, qui sera une chambre supplémentaire sans qu'on nous dise exactement comment cette chambre-là va renforcer le Parlement. Il y a le Conseil économique et social qui est supposé être un groupe de conseillers du président de la République.
Autre son des cloches, celui de Pierre Kwame Adjoumani, président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, la LIDO. Pour lui, le Sénat peut être un plus pour la démocratie ivoirienne.
Un plus pourquoi ? Les lois vont être mieux examinées et nous pensons que plus examinées, et si cela se fait en toute indépendance, ça va concourir bien entendu à l'avancement de la démocratie dans notre pays. Peut-être que à la pratique, nous verrons que ce n'est pas nécessaire, ou à la pratique, c'est nécessaire. Donc voyons ce que ça va faire, ça va donner.
Dans la rue, les avis divergent sur l'instauration de cette nouvelle institution.
Le Sénat, moi, bon, personnellement, je me dis que les députés, peut-être qu'ils font le même boulot que le Sénat, c'est ce que je me dis, mais je ne connais pas réellement quel est le rôle du sénateur.
Dans tous les pays développés, il y a tous les sénats. Moi, je dis personnellement, c'est bon. Ça permet l'évolution. Bon, le Sénat, pour moi, c'est bienvenu. On verra ce que ça va apporter.
Moi, je pense que c'est un peu trop parce qu'il y a tellement d'institutions et que ça, encore le président du Sénat, il faut le payer à des millions. Entre nous-mêmes qui sommes là, les gens, on n'en a pas. Les salaires, il n'y a pas. Acheter de l'huile, ça coûte cher. Même les médicaments, c'est compliqué. Bon, on peut au moins faire des économies avec ça un peu.
Le Sénat ivoirien va siéger à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire et sera dirigé par l'ancien Premier ministre Jeannot Ahoussou-Kouadio, cadre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
L'Afrique au sud du Sahara comprend la population la plus jeune au monde. D'ici 2030, les Nations Unies estiment que la région va accueillir le quart des jeunes de 15 à 24 ans. Comment les gouvernements africains vont-ils faire face à cette nouvelle génération qui tente tant bien que mal de s'assurer un meilleur avenir alors que les universités du continent sont déjà débordées? C'est un reportage à Dakar avec un récit de Salwa Jafari.
Quatre cours magistraux, pas moins de 100 séminaires par semaine dispensés à plus de 1500 élèves. Oumar Diaye, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, est un homme occupé, débordé.
Oui, ça est épuisé. Hein. Épuisé, mort même, s'il faut le dire. Hein. Mais le métier d'enseignant, l'amour que nous mobilisons dans tout ce que nous faisons, je pense que nous guide aussi vers la perfection et la réussite.
L'université publique principale du Sénégal fonctionne à plus de 4 fois sa capacité. En 2017, le rapport étudiant-conférencier était de 158 pour 1 à l'école des sciences humaines et 75 pour 1 à la faculté de droit. Les étudiants attendent des mois avant de recevoir le résultat d'examen. Et les cours ne commencent qu'en décembre. Cette année, pour certains étudiants, le premier semestre n'a commencé qu'en février. Sérigny Ahmed Séné représente les étudiants.
Les études doivent démarrer au mois d'octobre. Mais aujourd'hui, le calendrier universitaire est chamboulé.
Avec un calendrier gonflé à bloc, les professeurs se plaignent des possibilités limitées de recherche. Ibrahima Diouf est professeur de littérature.
Contrairement au pays où on trouve pratiquement tout dans les bibliothèques. Par exemple, aujourd'hui, il y a certaines références qui portent sur le Sénégal. Si on en a besoin, il est plus facile de les trouver à l'étranger, n'est-ce pas? Parce que la conservation a été beaucoup plus facile peut-être là-bas. Il y a eu beaucoup plus de moyens.
Chef Anta Diop accorde un voyage de recherche tous les deux ans. Mais beaucoup d'enseignants disent voyager plus fréquemment, laissant les étudiants se débrouiller tout seuls. Mohamedou Diao est étudiant en droit.
Parfois, on affiche pour le démarrage des cours, mais il y a les professeurs qui ne viennent pas. Ils attendent 15 jours, parfois un mois avant de démarrer le cours.
En 2015, le gouvernement a embauché 210 nouveaux enseignants pour toutes ces universités. C'est loin d'être suffisant, sans compter qu'il faudra des années pour que ces nouvelles recrues atteignent le statut de professeur titulaire. Ibrahim Tioub, chancelier de l'université.
Jour au lendemain, on leur demande d'exercer un métier pour lequel ils n'ont pas été formés. Cela pose problème.
De nouvelles universités en construction. En attendant, dur de chercher le savoir à l'université, cher Anta Diop, difficile aussi de le dispenser.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
La ville de Miami, dans l'état de Floride, est depuis des années l'une des destinations préférées des Européens de l'Est, avec sa température agréable, la chaleur de l'océan et les soirées festives. Mais ces derniers temps, beaucoup de Russes et d'Ukrainiennes viennent à Miami pour accoucher. Un récit de Mary Benson.
Ksenia Popova est venue à Miami depuis Vladivostok, en Russie, après près de 2 jours de voyage. Son mari et elle sont venus donner naissance à leur fille Taïsia. Ksenia Popova fait du tourisme d'accouchement.
J'ai toujours voulu donner naissance aux États-Unis. C'était en quelque sorte mon rêve. Dès que je suis tombée enceinte, mon mari et moi avons fait des recherches et nous sommes venus ici.
Tout bébé né aux États-Unis est automatiquement américain. Naëlia Valieva est fondatrice de Happy Baby, une organisation qui aide les parents avec les papiers administratifs, le choix du médecin et la recherche d'appartements. Naëlia Valieva.
Ce n'est absolument pas illégal de venir à Miami pour accoucher. Les gens pensent que les soins médicaux aux États-Unis sont parmi les meilleurs au monde.
Les femmes sont d'accord avec cela. Faire ce long et coûteux voyage vaut le coup pour la qualité des soins. Aussi, les attitudes sociales les aident à prendre une décision. Katerina Kramova, touriste d'accouchement.
En Russie, la grossesse est perçue comme une maladie. Vous devez tout le temps voir le docteur et passer des millions d'examens.
Remberto Santos, un obstétricien cubain de Miami, fait accoucher des femmes depuis plus de 23 ans. Et la plupart viennent de l'Europe de l'Est. Remberto Santos.
Les patientes ukrainiennes et russes supportent mieux la douleur. Certaines d'entre elles demandent la péridurale, mais la majorité veulent accoucher de manière naturelle.
Les futures mamans utilisent un visa de tourisme basique. Tout ce qu'elles ont besoin, c'est de montrer un billet retour ainsi qu'une attestation bancaire, explique Naëlia Valieva. Les femmes partent de leur pays environ un mois avant leur accouchement. Ensuite, elles ont leur bébé et restent pendant un mois. Bien que le tourisme d'accouchement coûte à ces mamans environ 20 000 $, beaucoup choisissent de franchir le pas pour profiter du confort de Miami. Elles rentrent ensuite dans leur pays et présentent à leur bébé sa deuxième patrie.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h temps universel. Au menu African Music, des anciens et nouveaux morceaux africains. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205. 2633. 001-202-205. 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Sims Loumami, à la console Marc. Présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique, les infos.